carnet de voyage. Une invitation. Ooh, can't anybody see?
Bonjour à tous les auditeurs de RCF. Nous avons le plaisir de recevoir Damien D'Autremer. Bonjour.
Bonjour.
Damien, tu viens nous parler de la Tasmanie qui est en Australie. On va commencer par la question de base. Comment tu en es venu à aller vers ce territoire qui est à Perpète-les-Oies de la France?
Oui, ça peut difficilement être plus à Perpète. À l'autre bout, quasiment à l'opposé. Mon premier voyage, là, qui remonte à 6 ans maintenant, c'était un petit peu le hasard. Les opportunités de voyage. Je revenais d'un long voyage en Islande. J'avais passé 4 mois en Islande. Et puis je cherchais à repartir, à voir d'autres choses. Et donc je me retrouvais à l'automne, c'était septembre-octobre. Donc je regardais les saisons, où aller ou pas aller. Pour avoir des saisons estivales, il fallait que je me retourne vers l'hémisphère sud. Donc j'avais regardé au départ le Pérou, l'Équateur. Je n'avais pas trop envie d'aller dans un pays et parler espagnol. La haute montagne me gênait en y allant seul. Donc j'ai, par élimination, je me suis retourné vers l'Australie. Puis j'avais entendu parler des paysages de Tasmanie, des possibilités de trekking, quoi.
Alors, on va voir que le point fort là-bas, c'est le trekking quasiment en autonomie, hein, c'est ça même qui t'a super intéressé. Déjà, la Tasmanie, elle est au sud de l'Australie. Hein.
Voilà, c'est une île qui est grosso modo la taille de l'Irlande et qui est située au sud-est de l'Australie. Donc, c'est une île sous une île, donc c'est vraiment, vraiment très isolé, quoi.
Le point fort de cet endroit, c'est la faune.
Voilà.
Donc, qu'est-ce que.
Faune-flore.
Alors, qu'est-ce qui est très, très connu là-bas?
En Australie, en général, il y a une faune de toute façon qui est extrêmement riche. Ce qu'on retient souvent, c'est les marsupiaux. Les marsupiaux, c'est tout ce qui est koala, kangourou, il y en a énormément. Et en Tasmanie, il y a ce qu'on appelle les marsupiaux carnivores, donc, qui sont souvent des marsupiaux un peu plus petits, qu'on ne trouve, qui sont vraiment endémiques, qu'on ne retrouve que sur l'île. Et un des plus remarquables, c'est le diable de Tasmanie, qui est un petit animal comme la taille d'un petit caniche, qui est tout noir, avec des petites oreilles roses, avec des petites dents acérées, un animal nocturne qui a l'habitude de crier en pleine nuit, qui a un son assez glaçant, quoi.
D'où son nom de diable.
D'où son nom de diable, et puis avec sa robe noire.
Donc on peut dire que tu as vu le diable.
J'ai vu le diable.
Tu es une des rares personnes de Gap à l'avoir vu.
Oui, effectivement.
Et il y a également le tigre de Tasmanie, mais qu'on voit plus trop.
Ben non, on le voit même plus du tout, quoi. c'est un animal qui était exterminé. Apparemment, le dernier spécimen vivant serait mort donc en captivité dans les années 30 à Hobart. Ça, c'est un animal qui ça ressemble. On l'appelait aussi le loup marsupial. C'était la taille d'un loup. Avec l'arrière-train un peu rayé, des oreilles pointues, puis une grosse mâchoire qui s'ouvrait à 120 degrés. C'était une des caractéristiques. C'était un marsupial, donc c'est-à-dire il avait une poche et puis il avait ses petits dans la poche. C'était vraiment un animal de légende, quoi, qu'on ne retrouve plus. Alors chaque année, des marcheurs qui vont se perdre dans les montagnes en Tasmanie, parfois affirment en avoir vu, mais il n'y a aucune preuve. Apparemment, il a été complètement exterminé, quoi.
Ok, donc c'est le Yeti.
Voilà, c'est un peu le Yeti, sauf que là, on est certain qu'il est existé, quoi.
Ouais, voilà. Ouais. Ils n'ont pas fait une sorte de musée où on voit la carcasse, enfin le squelette?
Non, il y a pas de, à ma connaissance. Par contre, je sais qu'on voit un petit film qui tourne en boucle d'ailleurs dans le musée de Hobart sur 5 secondes et on voit le dernier spécimen de tigre en captivité qui tourne en rond dans sa cage. Un vieux film en noir et blanc, c'est assez émouvant.
On a compris que toi, ce qui t'avait passionné, c'était justement ce trekking. Donc, en définitive, ça se passe avec beaucoup de forêts vierges qui est très humide.
Ben, faut savoir qu'en Tasmanie, il y a une des caractéristiques, c'est qu'il y a les dernières zones de forêts vierges tempérées au monde. Donc c'est assez ciblé, mais c'est quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire des zones très étendues de forêts primaires avec des grandes fougères arborescentes, des eucalyptus qui font jusqu'à 100 mètres de haut et qui n'ont pas été touchés par l'homme, en tout cas dans certains coins. Donc il y a des sentiers, des très longs sentiers de randonnée qui font jusqu'à 15 jours de marche, qui traversent ces zones-là, qui traversent des chaînes de montagnes, qui rejoignent la côte, etc. Donc c'est vraiment un paradis de la marche, quoi.
Ouais, ça doit être enivrant. Mm-hmm. Ouais. Et je crois qu'il faut même des petits avions pour aller se déposer à certains endroits, non?
Ouais, alors c'est pas le cas pour tous les coins, mais effectivement pour aller dans le sud-ouest de l'île, il y a aucun moyen de rejoindre ces coins-là en voiture. Donc on prend un petit coucou, on est 5-6 dans l'avion, il nous dépose sur une plage Et ensuite, on fait le trajet de retour à pied. Alors, selon les itinéraires, les variantes, ça peut prendre... Moi, j'ai fait un trek comme ça qui s'étendait sur 12 jours. Donc, 12 jours d'autonomie avec son sac à dos. Ça fait un sac qui fait un bon 30 kilos au départ, puis qui, dont le poids diminue au fur et à mesure. Donc, il faut être préparé et un peu entraîné quand même pour ce genre d'aventure.
Et alors, tu disais que ce qui t'avait marqué, c'est justement que les trekkers sont disposés à payer de leur personne et à faire vraiment de l'itinérant avec la tente et tout le bazar, quoi.
Bah, disons qu'on n'a pas vraiment le choix là-bas, parce qu'il faut être autonome à 100% au niveau du couchage. Il faut avoir tout ce qu'il faut pour être protégé, notamment de la pluie et du vent, parce qu'il y a des vents extrêmement violents. Il peut neiger même en plein été. Faut avoir toute sa nourriture avec soi. Et quand on part 10 jours de nourriture... 3 repas par jour, ça fait vite énormément de poids. Donc, faut être préparé au niveau d'avoir des bonnes chaussures. Les sentiers sont très mauvais, souvent très boueux. On marche dans la boue jusqu'aux genoux parfois. Donc, effectivement, faut vouloir s'investir pour ce genre de voyage. Faut pas avoir peur de se mouiller.
Si t'arrive un problème ou que tu es blessé, en définitive, il n'y a pas tellement de solution de secours.
Bah, c'est sûr que l'hélicoptère, par exemple, la liaison serait pas très longue, mais il faut pouvoir le contacter. Une des possibilités, ça peut être de louer, par exemple, des petites balises donc qu'on déclenche. Moi, j'avais pris le risque de pas le faire, un peu par...
insouciance.
Par insouciance et par témérité, enfin, un mélange de tout ça. Et bon, il m'est rien arrivé, heureusement. Mais si on n'a pas ça, effectivement, en plus, en partant seul, ça peut être un risque. La seule chose à faire, ce serait de rencontrer quelqu'un et qu'il prévienne des secours. Mais bon, c'est toujours un risque, de toute façon, quand on part affronter la nature comme ça.
Mais ça ressemble un petit peu au film Into the Wild.
Avec une fin plus heureuse, sûrement.
Toi, t'as pas mangé de champignons, donc c'est pour ça qu'il revient.
Non, moi, j'avais ma propre bouffe.
Mais est-ce que ça arrive, par exemple, comme dans Into the Wild, que tu franchisses un endroit et que tu puisses pas revenir parce que le torrent a augmenté ou...
Ce genre de situation pourrait arriver, parce que d'autant plus que là-bas il y a des pluies très violentes qui arrivent sur la côte ouest de l'île, et les torrents sont gonflés d'eau. Il y en a énormément en tout, il n'y a aucun pont, on traverse à gué à chaque fois, donc on peut être bloqué parfois plusieurs jours si on a des conditions météo qui sont mauvaises, quoi. Moi, j'ai pas eu de trop de problèmes par rapport à ça, mais j'ai rencontré des gens, je me souviens, avant d'avoir traversé un bras de mer, qui étaient là depuis 2 jours et qui attendaient de traverser, quoi. Donc là, faut avoir la nourriture en plus, puis faut avoir prévu le coup, quoi.
Mais est-ce que les gens font comme on fait en France, où on se déclare dans les refuges ou les points de départ, et si tu reviens pas, après ils font des recherches?
Ouais, il y a un système comme ça où on recommande fortement à tous les marcheurs qui veulent faire des randos un peu engagés comme ça, d'aller rencontrer les rangers du parc, leur dire ce qu'on veut faire, l'itinéraire qu'on veut faire, ils vérifient l'équipement, notre expérience, puis ils donnent des petits conseils. Et puis effectivement, au départ de la randonnée, on dit le nombre de personnes, la date, l'heure, l'itinéraire prévu. Et puis au retour, on fait du check-out, quoi. On dit, OK, je suis arrivé sain et sauf. Parce que sinon, au bout de quelques jours, les recherches seraient déclenchées, quoi.
Je crois que la faune est aussi exubérante que la flore. Et il y a quelque chose de spécial là, qui concerne les koalas.
Les koalas, on en voit beaucoup, mais c'est vrai qu'on les voit plus la nuit, parce que en plein jour, ils sont dans les eucalyptus, ils sont assez mollos, ils passent leur journée à manger des feuilles d'eucalyptus dans les arbres, puis ils changent d'arbre, ils passent d'arbre en arbre la nuit, en traversant souvent les routes. Malheureusement, on en voit, si on n'en voit pas vivant, parfois on en voit des morts écrasés au bord de la route. Fait que ça, c'est quelque chose qui est assez marquant, qu'on voit d'ailleurs dans toute l'Australie en général, quoi.
Ce qui est marrant, c'est que nous, on a l'impression qu'ils restent dans les arbres et qu'ils n'ont pas tendance à se déplacer beaucoup.
Ouais, on a l'image effectivement du koala posé sur sa branche, mais on les voit se déplacer, effectivement, mais à une allure vraiment bien cool, quoi. C'est pas un animal bien violent.
Ok. Ouais. Bon, moi, je crois qu'on va faire une petite pause musicale et dans la deuxième partie, on va parler des rencontres et des frayeurs que tu as eues, parce qu'il se passe quand même pas mal de choses en Tasmanie.
Ça, il y a son lot d'aventures, oui.
Rebonjour à tous les auditeurs de RCF. Nous sommes toujours en Tasmanie, toujours avec Damien d'Outremer. Donc on a vu que la faune était énorme en Tasmanie. Et du coup, tu as eu quelques petits moments de frayeur.
Ouais, quand on va se balader, surtout seul dans ces coins-là, on est forcément à un moment donné confronté à des petites,
ouais,
des
à l'inattendu.
Effectivement, à l'inattendu, à des petites crises de panique. Après, si on est préparé, ça va mieux. Mais en Tasmanie, c'est surtout lié à la météo qui est exécrable, qui est très inattendue. Et puis, faut savoir qu'en Australie, parmi les 13 créatures les plus mortelles au monde, il y en a 10. Okay, donc ça fait quand même beaucoup. Notamment, il y a le requin blanc, par exemple, les alligators dans le nord de l'Australie, mais en Tasmanie, c'est surtout les insectes, serpents et araignées. Et ça, en marchant plusieurs jours en Tasmanie, on est sûr d'en trouver. Il faut savoir que c'est des serpents mortels. Une piqûre, sans soin, ça veut dire la mort au bout de 6 heures.
Ah ouais.
Donc
ouais.
C'est des...
Du coup, tu as des ruses comme les guêtres, c'est ça ?
Ouais, en Tasmanie et en Australie en général, tout le monde marche avec des guêtres parce que c'est une protection déjà contre la végétation, souvent qui est assez dense. Et puis, en sachant que les serpents, le seul risque de se faire mordre par un serpent, c'est lui marcher dessus pendant qu'il se dort au soleil sur le chemin et qu'on l'ait pas vu. Mmh. Donc, on marche avec déjà des grosses chaussures montantes assez costauds. Puis des guêtres qui protègent jusqu'au genou. Fait que c'est une protection qui est indispensable et qui est assez efficace, quoi. Donc, c'est assez rare. Il y a peu de randonneurs qui sont morts par des serpents, mais bon.
Oui, ils sont pas agressifs, c'est simplement hasard.
Exactement. C'est pas des animaux qui sont agressifs du tout, mais ils se défendent.
Et alors, comme tu disais en première partie, il y a beaucoup de forêts vierges et beaucoup d'humidité, de boue. Du coup, tu dois être attaqué par les moustiques ou des choses dans ce genre-là, non ?
Moustiques, en tant que tel, il n'y en a pas trop. Quelque chose d'assez marquant là-bas, c'est ce qu'ils appellent des matchflies. C'est des petites mouches noires qui ressemblent un peu à des temps. On les retrouve surtout quand on marche au bord de la mer. Souvent on fait tourner un bandana avec des bâtons de marche, on essaie de les évacuer comme ça. Donc l'idée c'est de marcher le plus possible au bord de l'eau, et la brise marine les fait partir souvent, mais il y a de quoi se rendre fou parfois avec ces mouches-là.
Avec ces bêtes, ouais. Ouais. Parce que je sais que j'avais été en Afrique noire, où il y a des endroits où tu as une concentration de mouches comme ça, c'est vrai que tu sais pas comment faire pour te sortir de l'endroit.
Non, effectivement, selon le moral qu'on a, on arrive à s'y faire, mais il y a des problèmes de sangsue aussi. Là, les guêtres apportent une protection qui est pas négligeable aussi.
Et alors, je crois que justement, quand tu traverses les rivières, des fois, tu as des problèmes de gestion de barque.
Ouais, alors pour les plus gros bras de mer, en Tasmanie, je connais deux endroits comme ça. C'est pas une simple rivière, c'est vraiment plus un lagon en tant que tel qu'on doit traverser. Donc c'est un bras de mer qui peut faire jusqu'à 200-250 mètres. Il n'est pas question de traverser à pied ou à la nage. Donc il y a des barques de chaque côté. Et pour être certain que les marcheurs qui peuvent arriver d'un côté comme de l'autre, d'ailleurs on fait pas forcément le trek dans le même sens, il faut qu'il y ait toujours une barque du même côté. Fait que les systèmes, c'est qu'on prend la barque qui est du côté auquel on arrive, on traverse, on prend l'autre, on la remorque, puis on fait donc l'aller-retour comme ça. On fait trois allers-retours pour être certain qu'il y ait à chaque fois une barque de chaque côté. Donc moi ça m'est arrivé de faire ça par belle météo, mais j'ai eu l'occasion aussi de le faire avec un grain assez mauvais, et je me suis fait une frayeur, et j'ai été justement sauvé in extremis par un petit bateau à moteur qui arrivait par là par hasard. J'étais amené sain et sauf de l'autre côté, mais surtout que c'est vraiment des barques barques de pirates, quoi, un peu pirates des Caraïbes. On rame en arrière, on voit pas trop où on va avec les vagues, c'est l'aventure.
Et du coup, le Rangers qui t'a sauvé, c'est lui, il est pas là en train de faire des patrouilles, il passait dans le coin, quoi.
Je pense que, si je me souviens bien, il était là avec une biologiste qui bossait dans le coin. Donc, c'était vraiment, vraiment un pur hasard, quoi. Il passait dans le coin, je leur ai fait coucou, et puis il m'a amené. D'ailleurs, je me souviens que j'étais content qu'il m'ait pris, parce qu'en arrivant de l'autre côté, j'étais trempé comme si on m'avait pris à la lance à incendie, quoi. Simplement le clapotis des vagues, etc. Donc, si j'avais dû traverser ça à la rame, je préfère même pas y passer, quoi.
Donc ils ont certainement dit encore le petit Frenchie.
Ouais, voilà, c'est ça.
Qui voit plus loin que le bout de son nez. Ah, oui. Du coup, tu as aussi, je crois, des passages où tu vois personne pendant des jours et des jours.
Ben, faut savoir qu'il y a des itinéraires qui sont plus ou moins courus. Même pour les randos les plus classiques, parfois on peut trouver beaucoup de monde. Mais dès qu'on sort des sentiers les battus, on peut ne pas voir personne pendant plusieurs jours. Il y a des randonnées sur lesquelles il y a peut-être une centaine de marcheurs dans une année. Donc c'est vraiment, vraiment très très faible comme fréquentation. Moi, ça m'est arrivé de ne voir personne pendant jusqu'à 3-4 jours. Je me souviens que le jour où on rencontre des marcheurs, là, on s'arrête, on se regarde un peu bizarrement parce que c'est souvent le cas pour la personne en face. Donc on a forcément quelque chose à se dire, même si c'est une banalité, quoi. On c'est pas le simple randonneur à qui on dit bonjour et on se croise et on s'en va, quoi. En général, on s'arrête pour échanger quelques mots.
Ouais, la parole devient importante.
Exactement, ouais. Même si on cherche la solitude, on est toujours content de rencontrer quelqu'un.
Ça nous amène tout bêtement aux rencontres que tu as pu faire. Donc, tu as eu l'occasion de rencontrer d'autres trekkers.
Oui, oui.
Qui eux-mêmes avaient faisaient des choses un peu spéciales, comme de la crème de marron, je crois.
Oui, alors il y a ces gens dont je me rappelle qui étaient des Australiens, donc ils vivaient sur le continent, et ils étaient partis donc pour le même trek que moi, une dizaine de jours. Il y avait deux couples, et il y avait un de ces couples, je me souviens, on discutait, et puis ils vivaient dans les Alpes australiennes, donc un parc national au sud de l'Australie, et puis je leur demandais ce qu'ils faisaient, et puis ils me disaient qu'ils avaient une petite exploitation et ils fabriquaient de la crème de marron. Donc je leur ai dit, ah oui, crème de marron, l'Ardèche, machin, et puis ils m'ont dit qu'ils connaissaient justement l'Ardèche est de réputation, ils avaient jamais mis les pieds en France, mais alors c'était assez inattendu, c'est très caractéristique, quoi, très, très typique. Puis, c'est vrai que ça nous avait fait rire, je me souviens, cette histoire de crème de marron. Quoi.
Ah oui, parce qu'à l'autre bout du monde, des mecs qui connaissent l'Ardèche et les
crèmes
de marron.
Oui, exactement, mais il y a même des gens en France qui ne connaissent pas l'Ardèche, donc effectivement, aller si loin pour entendre parler de l'Ardèche, c'était assez cocasse.
Ouais, c'est marrant. Ouais. Mmh. Est-ce que la production de crème de marron, ça... C'est prisé pour les Australiens, ils aiment ça ou...
Je crois pas, franchement. Je pense que c'est vraiment c'est assez anecdotique, quoi, comme culture, à ma connaissance. Hein. Ouais.
Tu as eu l'occasion aussi d'être reçu dans une ferme chez les Australiens.
Oui, alors ça c'est entre deux treks, je dirais. J'ai fait un petit break pour rencontrer un peu des gens puis me ressourcer. Et donc on a la possibilité de faire en Australie de faire du bénévolat dans des fermes qui pratiquent de près ou de loin une agriculture dite biologique. Donc souvent, c'est des gens qui vivent, qui ont un mode de vie un peu alternatif, ils sont un petit peu à l'extérieur. Donc moi, ça me plaisait, ça. Puis c'est l'occasion d'aider les gens, puis de les rencontrer, voir comment ils vivent. Donc j'ai passé une petite semaine chez un couple de nouveaux retraités qui vivaient dans une très grande propriété, entourée d'eucalyptus. Puis je dirais pas que l'agriculture bio était un maître mot chez eux, mais c'était des gens qui vivaient au naturel, en tout cas. Donc, j'allais nourrir les poules, j'allais défricher, planter des haies, des choses comme ça. C'était assez plaisant pour ça. De sortir un peu du touriste de base et puis aller avoir une petite routine, bosser.
Ouais, ça c'est bien.
Pour ça, c'était sympa.
Et donc, ils ont une organisation qui dit que les étrangers peuvent faire du bénévolat chez les Australiens, alors.
Voilà, c'est quelque chose que les touristes français, et puis même étrangers, font beaucoup en Australie, quoi. Oui, il y a un annuaire qui existe, selon les régions dans lesquelles on est, on regarde, tiens, telle personne, on les appelle, on demande s'ils sont dispo, puis contre le gîte et le couvert, on offre 5-6 heures de travail dans la journée.
Ça, c'est super bien. Mm-hmm.
Hein. Ça existe dans d'autres pays, je crois que ça existe en Amérique du Nord aussi.
En Australie, tu as des barrières pour empêcher les chiens de venir aussi, c'est pas les dingos ou quelque chose comme ça?
Alors ça, il n'y en a pas en Tasmanie.
Il n'y en a pas du tout.
Ouais. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des espèces animales qui sont plus présentes en Tasmanie et pas en Australie, parce que le dingo n'est pas arrivé.
Ouais,
mais oui, effectivement, ça peut être un problème sur le continent. Ouais.
Et ces gens qui étaient dans leur ferme, ils avaient des animaux qu'on peut appeler domestiques ou des choses comme ça?
Ouais, ils avaient quelques chiens, des chats, parce qu'ils avaient de la place, mais ils avaient un poulailler, et puis quelques canards, des poules. Ils avaient les œufs frais, quoi. Mais c'était pas, on peut pas dire que c'était une ferme en tant que telle, quoi.
Ouais.
Surtout une grande propriété dans la nature.
On n'a pas parlé du tout du problème de la déforestation. Je crois que ça, c'est devenu important là-bas.
Ça a toujours été un problème depuis des dernières décennies. Et puis là, ça a tendance à... Ça monte en flèche parce qu'il y a un gros combat entre les personnes proches qui sont proches de l'environnement et notamment une grosse société tasmanienne qui déforeste à tout va pour produire pour nourrir l'industrie de la pâte à papier, notamment, qui part au Japon. Et c'est ce qui est dramatique, c'est que c'est des industries qui détruisent des forêts vierges, et notamment des arbres, des spécimens d'eucalyptus qui font jusqu'à 90 mètres de haut, quoi, des arbres qui étaient là quand les premiers colons sont arrivés. Donc c'est aberrant, surtout que c'est pas une exploitation noble du bois, c'est pas pour de l'artisanat ou quoi que ce soit, c'est de la vulgaire pâte à papier, quoi.
Ouais.
Puis alors ils détruisent tout ça, ensuite ils brûlent les forêts au napalm, toutes les espèces animales sont tuées. C'est même si quand on arrive en Tasmanie, c'est pas ce qu'on voit d'abord parce qu'il y a quand même beaucoup de zones encore propres. C'est un enjeu environnemental qui est grave là-bas. Ouais.
Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas conscience du fait qu'ils ne sont pas dans le bon... Dans la bonne façon de voir les choses?
Ben, je pense que le peuple tasmanien a conscience, mais le gouvernement australien veut faire de l'argent. Mmh. Je pense que c'est aussi simple que ça, quoi.
Ouais. L'Australie a peut-être des problèmes de ressources. Ils n'ont pas quelque chose qui est vraiment... qui leur rapporte beaucoup d'argent, c'est peut-être ça aussi, non?
J'imagine qu'ils essaient de s'en sortir comme ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'en Australie, on peut dire que le peuple est très écolo, mais le gouvernement ne l'est pas du tout. Il y a un contraste justement dans ce pays qui est un paradoxe un petit peu.
Ouais, parce que c'est vrai qu'on a l'image du surfeur australien, enfin des gens.
L'Australien de base, oui, effectivement, il est pas de la nature, quoi. Mais.
Qu'est-ce que ça donne pour l'eau, pour les problèmes d'eau? Il y a aussi des problèmes, je crois.
En Tasmanie, en tant que tel, il n'y a pas trop de problèmes d'eau parce que le climat est quand même moins sec. Mais il y a des gros problèmes, effectivement, dans le reste de l'Australie. Justement, ils ont été obligés, il y a quelques temps, de dire aux agriculteurs, écoutez, vous n'aurez pas d'eau cette année parce qu'il faut qu'on mette la priorité pour les villes. Alors là, il y a des compensations, des indemnisations, mais où il y a des gros, gros problèmes de sécheresse en Australie. Ouais. Mais moins en Tasmanie, qui a un climat un peu plus... Plus humide.
Ouais.
Ouais, beaucoup moins sec en tout cas.
Je crois qu'on a fait un petit peu le tour de tes différents voyages, parce que tu es revenu plusieurs fois.
Voilà, j'ai fait deux longs voyages là-bas, 2-3 mois.
Donc merci Damien d'Outre-mer d'être venu nous voir.
Merci.
Carnet de voyage. Une invitation. Ooh. Can't anybody see?